L'instant philo.
L'imitation entre copie, identification et création. L'imitation n'est pas une capacité jugée habituellement très noble. Des imitateurs comme Laurent Gérard ou Nicolas Canteloup peuvent certes être populaires, mais ils n'occupent pas comme humoristes une place centrale dans nos sociétés. La figure du faussaire, cet escroc qui s'enrichit en faisant des plagiats d'œuvres célèbres, a même contribué à la très mauvaise réputation de l'imitation. D'autant qu'à moindre échelle, l'individu qui mine de façon appuyée le comportement, les opinions et les goûts d'un modèle qu'il idolâtre est souvent moqué pour son manque de personnalité. Toutefois, en rester à cette approche plutôt dépréciative de l'imitation semble tout à fait intenable. Depuis Platon et Aristote, en effet, la mimésis, qui est le terme grec qui correspond à l'imitation, est un sujet de réflexion nourrissant multiples débats. D'abord en art, où la ressemblance et la grande exactitude dans l'imitation ont été des critères souvent discutés pour l'appréciation des œuvres, mais aussi en pédagogie, en psychologie morale ou même dans notre conception du réel. De sorte qu'examiner les multiples facettes de l'imitation et avoir une approche attentive à sa complexité semble vraiment nécessaire, tant il est vrai que cette capacité que nous avons d'imiter recoupe des aptitudes et des attitudes très différentes. On peut dégager en effet trois figures principales de l'imitation. Imiter, c'est d'abord copier, par conséquent reproduire un modèle avec la perfection duquel on sait ne pas pouvoir rivaliser. L'imitation peut aussi se présenter comme une identification ou une simulation exacte d'une réalité. Dans cette optique, la mimésis désire sortir de son infériorité supposée par rapport au modèle initial et tâche même de l'égaler, voire d'occuper sa place, ce qui n'est pas sans problème. Enfin, imiter peut signifier produire une réalité nouvelle. La mimésis n'est plus une reproduction imparfaite ni une identification problématique, mais une création. C'est ainsi qu'Aristote met l'accent sur la mimésis dans la tragédie et l'ensemble des créations littéraires. L'imitation sort alors d'un rapport d'infériorité, d'égalité, même de comparaison avec sa source première d'inspiration. Elle devient le creuset dans lequel se crée du nouveau. Imiter, disions-nous, c'est d'abord copier de façon imparfaite une réalité. Un dicton rappelle qu'on préfère toujours l'original à la copie. Et c'est vrai qu'une duplication de fichiers ou une photocopie d'un document, même à l'aide d'un système élaboré, suppose toujours en effet une perte de définition. Ce constat a beaucoup contribué à une dépréciation de l'imitation, toujours par définition approximative. Ce constat permet aussi de rapprocher l'imitation de l'image, dont on fait souvent l'hypothèse qu'elles ont une étymologie commune, visible dans leur préfixe. En effet, l'imitation copie, comme l'image, a un rapport de ressemblance et de dissemblance avec ce qui est représenté. Pourquoi de dissemblance ? D'abord, l'imitation reste différente de l'imité, sinon on ne pourrait pas vraiment les distinguer, ce serait la même chose, ou encore un double. L'imitation, comme l'image, est donc toujours imparfaite par rapport au modèle. On peut considérer, comme on le fait souvent, que c'est une imperfection, car toute réalité se trouve ainsi mal reproduite, voire déformée. À vrai dire, ce défaut peut se révéler souvent être une qualité. Platon, par exemple, estime que contempler et admirer les beautés terrestres, ces pâles et imparfaites copies de la beauté en soi, peut permettre d'élever son esprit jusqu'à l'idée du beau, et suggérer aux humains les qualités éminentes de ce qui est invisible et purement spirituel. La copie imparfaite, quand elle renvoie en filigrane au modèle parfait, a donc une valeur pédagogique, C'est pourquoi Platon multiplie les analogies, les métaphores et les mythes dans son œuvre pour parler des réalités supérieures et spirituelles qu'on ne peut décrire qu'avec ce que notre aptitude à imiter nous fournit. Dans un autre registre, religieux en l'occurrence, un ouvrage de piété, l'Imitation de Jésus-Christ, attribué habituellement à Thomas à Kempis, eut un grand succès à la toute fin du Moyen-Âge et à la Renaissance en Occident. Et il illustre très bien cette idée d'une imitation toujours imparfaite qui permet d'élever spirituellement les hommes. Ce pouvoir révélateur de la copie imparfaite est présent aussi chez les peintres caricaturistes et les humoristes imitateurs. On est toujours étonné du pouvoir que certains ont de mettre en lumière un trait physique ou psychologique de la personne imitée qu'on ne voyait pas nécessairement. Le miroir tendu alors peut être parfois très cruel quand elle souligne par exemple les tics de langage ou de comportement d'une célébrité qu'on reconnaît tout de suite. Et on le voit ici, l'imperfection d'un portrait dont les traits sont volontairement grossis révèle parfois un aspect d'une personnalité dont une certaine vérité par la même mise à nu. Il arrive qu'une imitation qui semble caricaturale puisse se transformer en un hommage plein d'humour. Dans un morceau intitulé « Lady of the Road », clin d'œil à Abbey Road, rendu célèbre par les Beatles, le groupe Kim Crimson a imité ainsi avec brio et finalement avec une ironie très respectueuse certaines compositions du fameux Quatuor de Liverpool. Kim Crimson met en avant le lyrisme appuyé de la mélodie, du chant, mais aussi des paroles de Paul McCartney. Il se moque gentiment de la batterie un peu lourde de Ringo Starr et s'amuse à produire un solo de guitare volontairement un peu poussif. Mais le résultat est un morceau original et plein de clins d'œil bienveillants aux Beatles, ce groupe qui a eu une influence énorme sur toute la rock musique. L'exemple de cet hommage aux Beatles permet de comprendre que l'imitation peut conduire à une certaine identification. Tant il est vrai qu'une certaine empathie et compréhension intime de ce qui est imité est souvent nécessaire pour pouvoir se glisser dans une manière d'être et de faire différente de la nôtre. Ce désir d'appropriation de la nature du modèle change le sens et la nature de l'imitation. Le morceau que nous venons d'écouter est une imitation assumée, où il s'agit de créer quelque chose de nouveau, en revendiquant avec humour l'influence des Beatles. Imiter consiste ici à se réapproprier quelque chose pour en faire œuvre personnelle. Cet aspect de la mimésis est aussi perceptible dans ce qu'on nomme le biomimétisme, qui désigne l'ensemble des innovations techniques imitant des processus naturels. C'est ainsi que le radar découle de l'observation du mode de repérage et de déplacement des chauves-souris. Cette figure de l'imitation est au cœur des apprentissages, et de toute formation, que ce soit chez l'enfant, l'étudiant, l'adulte, mais aussi chez l'artiste en herbe. En ce sens, l'imitation ne s'oppose pas ici à l'affirmation de soi. Au contraire, force est de constater que la construction de notre personnalité passe par diverses identifications qui sont autant d'étapes importantes de notre développement. Et on n'est pas influencé de façon passive par ce qui nous entoure, comme c'est le cas de Zelig, ce personnage imaginé interprété par Woody Allen, qui est un vrai caméléon, changeant d'aspect physique et de personnalité même en fonction du milieu dans lequel il vit. En réalité, le plus souvent, il y a une activité de sélection, même inconsciente, des modèles et des influences en fonction de ce que l'on est et de ce que l'on désire. Imiter consiste alors à mettre ses pas dans les pas des autres pour pouvoir tracer ensuite son propre chemin. Les peintres de la Renaissance passaient ainsi un certain temps à copier les maîtres anciens pour se faire la main. Et les grands artistes savent rendre hommage aux maîtres qui les ont influencés. C'est le cas de Bach avec Jan Dismas Zelenka, de Raphaël avec Bronzino, ou encore du cinéaste Bruno Dumont avec Bresson et Tarkovski. Il est clair dès lors qu'un bon maître ne cherche pas à avoir un disciple docile, mais à faire naître un nouveau maître qui peut-être un jour le dépassera ou en tout cas produira ce que lui, son mentor, n'aurait jamais pu faire. Quand la mimésis contribue à la construction de soi et à la créativité, comme nous venons de le voir, elle n'a plus grand-chose à voir avec ces opportunistes qui retournent leur veste en imitant de façon servile le modèle qui leur semble profitable à un moment donné. Elle est alors une aptitude tout à fait essentielle et précieuse. L'imitation peut aussi tendre à une identification presque fusionnelle avec le modèle. C'est à première vue paradoxal. Si les deux réalités deviennent semblables, loin d'avoir une copie de ce qui est imité, on obtient un double ou un clone. Ensuite, faire tomber la frontière entre le modèle réel et l'imitation peut conduire aussi à ce qu'il n'y ait plus qu'une seule réalité, donc plus rien à imiter. Dans cette perspective, le modèle est menacé, à tort ou à raison, d'être en quelque sorte éclipsé par l'imitation. Platon défendait la mimésis consciente d'être une copie imparfaite, tendant aux hommes le miroir de réalité plus spirituelle. Mais il se méfiait d'une imitation qui voulait se faire passer pour le réel. Les trompe-l'œil sont des simulacres qui montrent les limites d'une simulation du réel. Même si on peut peindre des raisins avec un réalisme saisissant, comme le fit dans l'Antiquité le peintre Xerxès, il est impossible de s'en nourrir. Cette imitation-identification, quand elle se développe dans les relations interpersonnelles, peut générer un désir mimétique, potentiellement destructeur, à savoir l'envie. Cette fascination pour un autre, qu'on veut imiter, qui s'accompagne du désir impétueux de prendre sa place. Le désir mimétique, rappelle René Girard, est ambivalent. L'admiration éprouvée pour quelqu'un peut se transformer en un désir de s'approprier de façon éventuellement violente tout ce qui constitue sa personnalité. S'identifier à une personne peut conduire à lui voler en quelque sorte son identité. Les exemples de rapports difficiles, notamment entre jumeaux, sont mis en valeur par René Girard, qui repère dans les mythes de toutes les civilisations des conflits terribles causés par ce désir mimétique. Étrangement, cette façon de s'identifier à l'autre a un versant très positif, car c'est aussi la source de toute empathie qui permet d'éprouver compassion et compréhension face aux souffrances ou aux pensées des autres. On le voit, l'imitation comme désir d'identification à l'autre et donc, pour le meilleur, comme pour le pire. Nous n'avons évidemment pas la prétention d'être exhaustifs au sujet de cette capacité humaine très riche qu'on nomme l'imitation. Au moins, espérons-nous avoir montré qu'il ne faut pas la sous-estimer, ni en juger trop rapidement, tant il est vrai qu'elle offre des figures assez différentes et complexes, mais toujours essentielles pour comprendre la nature humaine. Pour conclure cette émission, je propose que nous écoutions une reprise par Frank Sinatra d'une chanson française bien connue, qui permet d'illustrer, je crois, le pouvoir de renouvellement et de créativité de la mimésis.
Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all,